Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la dernière séance concernant l'évangélisation. L'évangélisation qui consiste à annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans le but de sauver les âmes. Donc nous arrivons à la fin. Et je rappelle qu'on s'était arrêté la dernière fois sur le fait que la religion, sous toutes ses formes, était aussi une résistance forte par rapport au fait que les gens se convertissent. C'était vraiment une solide résistance parce que la religion a tendance à se confondre à une identité. Donc c'est comme si on demandait à la personne de se renier elle-même, de renier sa famille, de renier son passé, que de lui demander de quitter sa religion pour venir à Jésus, venir au véritable Dieu. La religion est une forte puissance et c'est la réalité à laquelle nous sommes souvent confrontés. Et autrefois, nous-mêmes, on avait été freinés à venir auprès du Seigneur à cause de la religion. Donc on était aussi dans des religions et ça nous empêchait de prendre la décision de suivre le Seigneur parce qu'on avait l'impression que on nous disait que notre père s'est trompé, notre mère s'est trompée, notre famille s'est trompée, notre pays s'est trompé parce qu'on était dans des pays majoritairement dans une religion. Donc c'est quand même lourd à accepter de se dire, tiens, mon père, vous savez, quand on est jeune, on est enfant, on a l'impression que notre père ne peut pas se tromper. Et beaucoup de gens aujourd'hui vous le diront, avant que mon père meure, il m'a fait jurer de ne pas quitter ma religion, quelle que soit la religion. Et beaucoup sont bloqués comme ça, d'où ce qu'on a l'habitude de dire, l'importance de la prière, parce que la prière peut casser ce genre de forteresse. Forteresse, c'est une réalité. Nous lisons un passage dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Il est écrit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Donc l'apôtre le dit clairement, les armes dont nous usons sont des armes spirituelles. Donc même si nous on est physique, on a un corps physique, mais les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles qui renversent les forteresses. Les forteresses c'est quoi? C'est les raisonnements, c'est la culture. C'est comme des forteresses, donc physiquement quand on parle de forteresses, c'est des murailles hautes qui entourent une ville, qui entourent un camp. C'est, en général, pendant la guerre, c'était difficile de battre une ville qui était entourée d'une forteresse. Et l'apôtre nous explique que c'est par les armes que le Seigneur nous a donné, que nous pouvons renverser les forteresses. Et ces armes sont la prière, la même parole de Dieu que nous sommes censés faire accepter aux autres, c'est aussi en même temps une arme. Et c'est la réalité, les religions sont des grandes forteresses et nous serons amenés souvent à prier que Dieu agisse pour faire tomber cela. Donc amener quelqu'un à quitter sa famille, Ça, c'est les conséquences de quitter une religion, c'est quitter presque sa famille, souvent quitter son pays, d'autres fois risquer sa vie, puisque dans certaines religions, on tue ceux qui quittent cette religion-là. Et de plusieurs manières, persécution et opposition, parce qu'on peut quitter, on peut être licencié de son travail. Beaucoup de chrétiens algériens n'ont plus de travail parce qu'ils sont devenus chrétiens. En Égypte, n'en parlons pas. Les chrétiens n'ont pas le droit de faire partie de l'armée ni de la fonction publique. Donc ils sont obligés de faire leur propre commerce. Ce sont des réalités. Donc quelqu'un qui était dans la fonction publique, professeur, il comprend bien que l'évangile, c'est la vérité. Mais il y a aussi le problème de quitter sa religion qui s'oppose, avec toutes les conséquences. Donc nous comprenons que ce n'est pas facile, il y a des forteresses, et ces forteresses-là doivent être vaincues par le Seigneur. Donc nous devons prendre en compte toutes ces réalités et ne pas négliger la tâche. La tâche est très 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 importante. C'est une tâche immense. Qu'est l'évangélisation. Et si nous prenons tout ça en compte, notre façon de faire va changer, nos prières vont changer, et aussi notre patience va changer. Parce que parfois, certains sont impatients, parce que dans leur tête, ils voient tellement que c'est évident que Jésus est Seigneur. Ils voient tellement que c'est évident. Parce que vous allez dans des pays comme en Inde, où on va adorer des souris. Donc, pour nous, c'est tellement évident que c'est bête. Donc, un animal que tu peux tuer avec un bâton, mais il y a des peuples qui l'adorent. Donc, où on va adorer une vache. Donc, c'est tellement évident que c'est faux. Et on peut perdre patience devant ces gens-là. On peut manquer de tact devant ces gens-là. Alors qu'ils sont envoûtés. Et là, nous ne parlons que du côté identité, du côté social, familial, culturel, national. Mais il y a aussi le côté spirituel, où dans les religions, il y a des puissances. Donc l'apôtre Paul explique au chapitre 8 du premier livre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, il explique que les statues, derrière, quand on voit les statues dans les religions, derrière ces statues, il y a des démons. Donc quand quelqu'un est dans une religion, il y a des puissances aussi démoniaques qui se mettent en travail. Et nous avons donc à les combattre dans nos prières. Donc ce sont des réalités. Nous devons prendre en compte toutes ces résistances-là. Et ça va nous aider à mieux nous armer. À être beaucoup plus patient et à être persévérant parce qu'on sait que c'est une vraie lutte qui est face à nous concernant l'évangélisation. Donc nous allons évoquer quelques principes que nous devons retenir par rapport à tout ce que nous avons dit précédemment. On a parlé des sources de l'évangélisation. La source de l'évangélisation, c'était le péché. C'est le péché qui a amené la séparation entre l'homme et Dieu. Et ce péché-là a amené l'homme finalement à s'opposer à Dieu, à être rebelle vis-à-vis de Dieu. Et l'évangélisation, c'est permettre le retour de l'homme à Dieu. Donc que l'homme revienne à Dieu. Et le texte le plus clair, un des textes les plus clairs, parce qu'on ne peut pas toujours dire le plus clair, un des textes les plus clairs, c'est Luc chapitre 15, la parabole du fils perdu. C'est ça l'histoire de l'homme. L'homme a quitté Dieu parce qu'il a voulu être autonome, indépendant, parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu, et alors qu'il avait tout. Donc nous avons expliqué, c'est là la source du problème. Et ça a fait de l'homme quelqu'un de méchant et de mauvais, quelqu'un d'égoïste au maximum et d'orgueilleux. Et c'est ce qui l'a conduit justement à vouloir construire la tour de Babel pour dominer sur Dieu. rivaliser avec Dieu. Donc nous avons en face de nous un homme qui veut rivaliser avec Dieu. Donc on a expliqué déjà tout ça et on a parlé de la solution de Dieu qui était le sang de Jésus, le pardon, pardonner pour permettre une nouvelle vie à l'homme. C'est ça la solution de Dieu, pardonner afin que l'homme puisse mourir et naître de nouveau. C'est ça, c'est pourquoi quand nous prêchons, c'est la nouvelle naissance que nous prêchons en même temps, puisqu'un homme normal ne peut pas cohabiter, ne peut pas marcher avec Dieu. Donc il faut qu'il naisse de nouveau. C'est ça notre message. Donc nous avons expliqué après que devait être le message. Et ensuite nous avons parlé des discours, attitudes d'opposition, les résistances face à l'évangile. Donc nous clôturons avec les principes. Quelques principes à retenir par rapport à l'évangélisation. Premièrement, c'est la vérité. Nous devons toujours dire la vérité. On ne doit pas chercher à masquer la vérité dans le but de gagner le maximum de personnes. Non, nous devons rester toujours dans la vérité. Quand je dis la vérité, c'est quoi? Ça veut dire qu'en définitive, pour que quelqu'un passe de païen à enfant de Dieu, il faut qu'il ait eu à entendre toute la vérité. Ce n'est pas toute la Bible, mais la vérité essentielle. Que l'homme était dans le péché, il était dans la rébellion. Maintenant, pour venir à Dieu, il doit s'humilier et accepter de changer de vie. Clairement, arrêter avec le mal, arrêter avec le péché, accepter la nouvelle vie que Dieu lui donne. Donc il faut que cette vérité-là soit claire pour passer de l'étape de non-chrétien à chrétien. Donc maintenant, je ne veux pas dire par là que le premier jour, on est obligé de tout expliquer. Je suis juste en train de dire que le passage là de païen à enfant de Dieu n'est possible que si la vérité sur le péché de l'homme a été dite clairement, sur la vérité sur la toute-puissance de Dieu a été dite clairement, la vérité sur le fait que désormais, la personne va être une nouvelle personne gérée par Dieu, cette vérité-là doit être dite clairement pour qu'on puisse après appeler quelqu'un qui dit oui, enfant de Dieu. Si toute cette vérité n'est pas dite clairement, là il y a un problème. Donc et on n'a pas sauvé ces personnes-là. C'est ce qui explique qu'on se retrouve avec beaucoup de gens dans ce qu'on appelle les églises qui ne sont pas convertis parce qu'on ne leur a pas dit clairement que Dieu allait piloter leur vie. On ne leur a pas dit clairement que le péché, sous toutes ses formes, c'est mauvais. On a excusé certains péchés, on a excusé certaines attitudes. On a insisté juste sur le fait de croire en Jésus. Mais non, mais croire en Jésus, comment? C'est dans toute la vérité, il faut dire toute la vérité. C'est important, c'est ça qui peut faire qu'on appelle quelqu'un chrétien après avoir, quand il dit oui, il a bien compris la chose, on peut passer à une autre étape. Donc c'est très important de retenir cette clé parce qu'à un moment donné, on a voulu nous séduire par de nouveaux enseignements en disant qu'il fallait dire aux gens que Dieu veut les bénir et quand on va prier pour eux, ils vont voir les bénédictions, ils vont comprendre que Dieu est tout puissant, ils vont venir à Dieu. Et non, ça c'est juste vouloir augmenter le nombre de gens qui se disent officiellement chrétiens. Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de sauver les gens, de transformer radicalement les gens. Donc, avant d'appeler quelqu'un chrétien, il faut qu'on soit sûr que cette vérité a été dite clairement et comprise clairement. Donc, c'est quand quelqu'un veut se faire baptiser, moi, je lui pose toujours la question, mais pourquoi tu veux te faire baptiser? Il faut qu'il m'explique, que je comprenne qu'il a réalisé qu'il va mourir et qu'il va devenir une nouvelle personne. Qu'il a réalisé qu'il n'aura plus à gérer sa vie, c'est Dieu qui va gérer sa vie. Voilà. Qu'il a réalisé que Dieu était tout puissant pour l'aider. Donc s'il a réalisé ces choses-là, là on peut dire, tiens, la personne a vraiment cru et passe à la nouvelle naissance. Mais si la personne vient parce qu'elle n'a pas le choix, elle a une maladie incurable, elle a un problème dans la société, un problème social, des problèmes de difficultés, elle veut la solution et vient dire juste oui à Dieu comme ça, toute la vérité n'a pas été dite. Il faut que les choses soient vraiment clairement dites Et on ne doit pas blaguer sur ça parce qu'il s'agit du salut des âmes. Donc il ne faut pas chercher à augmenter le nombre, mais il faut dire la vérité afin que les gens soient sauvés totalement. Comme je l'ai dit au départ, ça ne veut pas dire que le premier jour dans nos contacts, dans nos relations, on sera contraint de dire la vérité dans sa totalité. Le Seigneur nous conduira, mais pour appeler quelqu'un chrétien, il faut qu'il ait eu à entendre la vérité et comprendre cette vérité-là. Voilà, c'est les deux. Parce qu'on peut dire aussi des choses, les gens, par exemple, lors d'une prédication, on dit les choses. Les gens, après, ils disent oui. Quand on dit qui veut dire oui à Jésus, ils disent oui. On doit après vérifier que ces gens-là ont dit oui à clairement à ce que nous avions prêché. Voilà. Il faut que ça soit qu'on vérifie cela s'il faut passer à une autre étape du baptême, par exemple. Oui.
Oui, pasteur. En fait, aujourd'hui, au saké, on fait nos parts et par exemple, on peut vivre dans des problèmes, mais après, tu dis, je vais faire. Dès que c'est résolu, je peux venir à Dieu, je lui demande pardon. Et puis, je ne sais pas si, est-ce que être chrétien, dans ce temps-là, si tu as fait des bêtises, tu savais déjà, et que tu attendais de demander pardon dès que c'est résolu. Après, est-ce que ça va... dès que tu as déjà demandé pardon, est-ce que le péché ou bien de ce problème que tu avais résolu toute seule, que tu as attendu demander pardon après, est-ce que comment ça va passer à la vie des chrétiennes?
Donc la question c'est que il y a des gens qui savent bien que le chemin qu'ils prennent, c'est pas un bon chemin, mais ils vont quand même, ils disent après je vais demander pardon.
Ouais.
Voilà, donc c'est pas bon. Donc ça c'est. C'est écrit, c'est le péché volontaire, Dieu ne va pas pardonner ça. Donc il faut que de telles personnes arrêtent de blaguer avec Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. De toute façon, quand ils vont demander pardon, plus tard ils vont se rendre compte qu'il y a toujours le poids dans le cœur. Ils vont avoir toujours le poids. Le poids du péché ne va pas s'enlever. Il sera toujours là.
Mais le Seigneur, il donne pardon quand même.
Ah, donc là, dans ce cas, ils demanderont pardon pour tous ces systèmes-là. Ils ne vont pas demander seulement pardon pour la chose qu'ils ont faite, mais pour avoir tenté et essayé de dribbler Dieu. Ils vont demander deux fois pardon. Et pardon pour ceux qu'ils ont fait de mal, mais pardon aussi d'avoir voulu tromper Dieu par cette méthode-là.
D'accord. Si c'est au milieu de personnes qui peut-être tu as fait des choses comme ça et tu demandes pardon, tu vas le venir après de demander entre deux personnes et...
Ah oui, si tu as fait tort aux gens, tu dois leur demander pardon.
D'accord.
Oui, oui. Ok. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus par rapport à la vérité. Il faut que ça soit clair afin de ne pas produire de fausses conversions. C'est ça le but, oui.
Oui, parce que j'avais posé une question. Et pour les gens qui ont été mal évangélisés dès le départ, et puis ils se sont accrochés au signal du Seigneur, mais dans l'erreur. Et si ça arrivait que ces gens-là mouraient, est-ce qu'ils iront au ciel ou pas?
Tout dépend, parce qu'ils peuvent mourir la veille et recevoir Jésus dans la vérité.
Mais s'il est mort dans son erreur, quoi?
S'il meurt dans son erreur, il va en enfer?
Quelque part, ce n'est pas son erreur parce que lui, il croyait être dans la vérité.
Ah, là, maintenant, nous allons revenir à un autre principe qu'on va expliquer tout à l'heure. C'est que Dieu connaît le cœur. Lui, il va faire en sorte que chacun de nous entende la vérité un jour.
Amen.
Voilà. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas sauvés avec cette erreur-là. Donc, seule la vérité peut le sauver. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, cette erreur-là ne les sauve pas, même si ça vient d'un homme. Voilà. Ça ne les sauve pas. Même s'ils ont été sincères dans l'erreur. C'est comme si vous dites, ceux qui sont dans d'autres religions, sincèrement, ils sont sauvés. Ah, ils ne sont pas sauvés. Maintenant, la question, est-ce que Dieu les laissera mourir comme ça? Ça ne nous regarde pas, ça regarde Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est bon, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il va travailler afin que ces gens-là entendent la vérité. Mais dire que être sincèrement dans l'erreur peut nous sauver? Non. L'erreur ne peut sauver personne, même si on est sincère. Oui.
Je voulais poser la question parce que parfois tu peux... Enfin bon, moi je connais un cas où j'ai parlé à la personne, où je lui ai donné tous les détails et je me rends compte que plusieurs jours après, voire une semaine après, la personne, en fait, c'est comme si c'était pas passé, en fait. C'est comme si elle avait complètement oublié ou tout ou partie. Et après, il faut re-expliquer et régulièrement. Alors, est-ce que la personne, peut-être qu'elle a un problème spirituel qui fait que ça bloque, ou qu'est-ce que ça peut être, en fait?
Oui, c'est le voile du diable. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment voilées fortement. Et il faut continuer le travail jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est le voile.
Il faut continuer à parler.
Il faut continuer à chaque fois qu'il y a une ouverture à expliquer. Voilà. Il y a des gens comme ça. Comme on avait dit au début, tu parles, c'est comme si tu parlais à un mur. C'est comme si la personne peut faire la comptabilité, lire, écrire. Mais dès qu'on parle des choses de Dieu, c'est comme si on parlait dans le vide. Elle ne comprend pas. Voilà. C'est le voile satanique. Donc il faut prier pour que ça soit... Voilà, c'est ça le deuxième point, la prière. Donc, vu toutes ces réalités-là, comprenons que notre parole, elle est efficace, mais sans la prière, elle ne va pas faire le travail total. C'est bien de parler, c'est bien d'agir, mais c'est encore très important de prier en même temps, parce que seul l'Esprit de Dieu peut arriver à briser les forteresses, à entrer dans le cœur de quelqu'un, et nous obtenons toutes ces choses-là par la prière. L'action du Saint-Esprit vient dans la prière. Donc nous avons besoin de prier pour que Dieu touche les cœurs. Nous nous souvenons de notre Seigneur Jésus qui lui-même, étant Dieu, priait beaucoup. Il priait beaucoup. Et un jour, le jour où il a ressuscité Lazare, il a prié Dieu. Il a dit « Je ne prie pas pour moi, pour que tu m'exauces, parce que tu m'exauces toujours. Je prie pour les autres, afin qu'ils voient et qu'ils croient en toi. » C'est une réalité. On doit prier parce que c'est Dieu qui touche le cœur. Celui qui touche le cœur, notre discours fait partie de son action. Mais ce n'est pas tout l'action. La grande action, c'est Dieu lui-même. Et cela devient effectif lorsque nous prions. Nous présentons à Dieu le souci des âmes. Dieu veut utiliser un canal qui est comme lui. Parce que sinon, évangéliser va devenir comme un sport pour nous. On fait ça parce que c'est la charge que Dieu nous a laissée. Et c'est le résultat qui nous intéresse. On a converti 5 personnes, on a converti 10, 20. Mais ce n'est pas dans cet esprit-là d'amour, de bonté, qui est démontré par la prière. Parce que quand tu jeûnes pour un inconnu, quelque part, tu ne connais même pas, parce que là, bientôt, on va jeûner pour le salut des musulmans, des catholiques, et ainsi de suite. Ben, pour faire ce jeûne-là, tu dois être quand même dans une attitude d'amour vis-à-vis de ces personnes-là. Et donc, c'est ce que démontre la prière. Donc, tu pries pour des gens, ça montre que tu entres dans l'attitude de Dieu lui-même vis-à-vis de ces gens. Quelle est l'attitude de Dieu? Une attitude de pitié, une attitude d'amour. Et ça se démontre dans la prière. Donc, je ne parle pas, juste je veux préciser ça, je ne parle pas de la prière quantité, mais je parle de la prière qualité, où tu exprimes ce qu'il y a au fond de ton cœur. Voilà, c'est cette prière-là dont je parle. Et cette prière-là peut être longue, mais le plus important, ce n'est pas la longueur, c'est que ton cœur vraiment parle à Dieu, ton cœur porte les âmes. Voilà, c'est ça qui compte devant Dieu. Et quand tu es dans cet état-là, lui, il agit. C'est important d'être... De faire ce genre de prière, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la profondeur. Oui.
Oui, pasteur, on est obligé de faire le baptême. Par exemple, quelqu'un qui est croyant...
On est obligé, parce que c'est écrit, on va lire Marc 16, 15. Marc 16. Marc 16. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur le dit clairement, si on croit et on est baptisé, on est sauvé. Donc si on n'est pas baptisé, on est condamné, puisque ça prouve qu'on n'a pas cru. Parce que croire et se faire baptiser, c'est la même chose.
Oui, mais si les gens ne lisent pas la Bible...
Comment ils savent qu'il fallait croire? C'est que quelqu'un leur a lu la Bible.
Oui, mais s'ils ne lisent pas la Bible, et au fond d'eux, ils pensent qu'ils sont croyants...
Mais nous, on doit leur faire lire la Bible. Leur montrer que la Bible réclame qu'ils se fassent baptiser. C'est le contrat. Au fait, le baptême, c'est quoi? Le fait qu'on dise que nous croyons, on le dit en français. Le baptême, c'est comme si on parlait un autre langage. C'est comme si on parlait du chinois. Voilà. Donc, c'est la même chose. Dire que qu'on croit et se faire baptiser, c'est la même réalité. Donc, on ne peut pas dire on croit et qu'on refuse le baptême. C'est comme si quelqu'un dit en français « je crois ». Quand il arrive en Chine, on lui demande de le dire en chinois « je crois ». Il dit « je refuse, moi je ne peux dire qu'en français « je crois ». Alors là, il y a un souci. Donc tu ne peux pas dire « je crois » en français, tu refuses de le dire en chinois, alors que tu peux le faire. Donc c'est la même chose. Le baptême n'est que la démonstration spirituelle de ce que tu as fait en français. Tu as dit « je crois », ben, spirituellement dans le monde de Dieu, ça se fait par le baptême. Voilà, c'est ce contrat-là qui se signe comme cela. Donc c'est pourquoi on le fait en public, puisque ça a une importance officielle. Donc ce que tu dis dans ton cœur, je crois, tu le manifestes par le baptême en signant un contrat public avec Dieu. Donc d'où, comme la question aussi vient de nous être posée, l'importance de dire toute la vérité. De parler du baptême aussi. Donc on ne peut pas, sinon on va avoir des demi-conversions. Donc il faut qu'on dise toute la vérité. C'est très important. C'est ça qui produit les vraies conversions, même si le nombre ne sera pas forcément grand. Deuxième réalité, on avait dit la prière, deuxième principe, la prière. Donc avec tout ce qu'on a, on a dit sur la difficulté à changer un cœur humain, la prière est nécessaire. Nous lisons Éphésiens 6. Éphésiens 6. À partir du verset 18. L'apôtre dit ceci, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Les saints, là, c'est les chrétiens vivants, hein, c'est eux les saints. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Donc l'apôtre demande qu'on prie pour lui, quand il parle, le mystère de l'Évangile se fasse comprendre, se fasse connaître. Sinon, tu peux parler, ça va être comme une autre langue que tu parles. Il dit, priez pour moi, quand j'ouvre la bouche, que je fasse connaître le mystère de l'évangile. Donc l'apôtre qui avait déjà une expérience dans l'évangélisation, dans le discours, dans la prédication, avait compris que c'est Dieu qui touchait les cœurs. Ce n'est pas la beauté du discours, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la force de la personne qui parle, c'est vraiment Dieu qui touche les cœurs. Et ayant compris ça, quand on comprend que c'est Dieu qui agit, mais comment Dieu agit, c'est quand nous on prie. Et donc il demande la prière afin que Dieu agisse. C'est très important de recourir à la prière, d'exprimer le fond de notre cœur et d'exposer nos projets au Seigneur. Dire au Seigneur, je veux ceci, je veux voir telle âme changer, je veux voir telle personne se convertir pour son salut. Et aussi, ce n'est pas seulement pour le salut de Dieu, et pour le salut de l'âme, c'est aussi pour l'honneur de Dieu. C'est quand même Dieu qui a créé les humains. C'est logique que les humains reconnaissent qu'il est grand, qu'il est tout puissant. C'est logique. Donc l'évangélisation, c'est un désir de la normalisation des choses. Normalement, on devrait être tous reconnaissants vis-à-vis de Dieu de nous avoir créés et surtout d'avoir livré son Fils à la croix pour nous, d'avoir en préparation pour nous un paradis extraordinaire, la Nouvelle Jérusalem. Pour ça, tout humain doit être reconnaissant envers le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour le salut de l'âme, c'est aussi par rapport à la normalisation des choses que nous devons viser l'évangélisation. Troisième élément, nous lisons dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13. Il est écrit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » Ça, ce n'est pas pour nous décourager, mais c'est la vérité. C'est la réalité. Nous allons être confrontés avec la réalité du petit nombre. Il n'y a que peu de gens qui vont être sauvés dans le monde entier. C'est une réalité. Et je sais que ce soit à vous, que ce soit à moi, ça nous fait toujours mal, ça nous fait poser des questions. Une fois, on a fait une étude biblique que sur ça, pourquoi les gens refusent de se convertir? Mais nous devons apprendre et accepter que peu de gens voudront de la porte étroite. Oui.
Oui, quand on lit la Bible, on voit que la Bible dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Mais quand on prend quelques versets, par exemple ce que tu viens de dire là, on dit il y a peu qui le trouvent. Et il y a encore des versets qui disent il faut chercher, vous trouverez. Il y a un verset qui dit vous me chercherez en tâtonnant, je sais pas, voilà. Donc on a comme l'impression que c'est facile, c'est gratuit, mais en même temps il faut chercher. C'est difficile, je sais pas.
Non, on a l'impression que c'est facile, c'est gratuit, mais en même temps peu de gens trouvent ça. Ce n'est pas que il faut chercher.
Pourquoi peu de gens trouvent? C'est quelque chose qui est là. Tout le monde va trouver. Il y a une pièce là. On va tous trouver, on va tous voir la pièce.
Mais parce que ça demande le dépouillement. Ça demande d'accepter d'être dépouillé. Et peu de gens refusent d'être. Et beaucoup de gens refusent d'être dépouillés. C'est pourquoi il appelle ça la porte étroite. C'est une porte où tu entres tout seul. Tu ne peux pas entrer avec beaucoup de charges, tes richesses, tes honneurs, ta personnalité. Voilà. Tu entres par la porte étroite. C'est ça la réalité. Et Vous savez, Zachée, comment il est entré? Il a pris ses biens, il a donné aux pauvres. Et le reste, il a remboursé à tous les gens à qui il avait volé. Si on veut comprendre l'évangile, c'est ça. C'est-à-dire que tu entres seul. Tout ce qui est autour, honneur, argent, personnalité, projet personnel, n'entre plus avec toi. Tu entres seul. Entrez par la porte étroite. Voilà. Et peu des gens vont accepter ça. C'est ça la réalité.
Donc c'est facile, c'est gratuit, mais il y a un autre part à faire.
Il faut accepter ça, d'entrer seul. Voilà, c'est ça qui fait que peu de gens trouvent. Parce que c'est une porte étroite. Donc tu ne peux pas entrer avec... comment dire? Au fait, en Israël, autrefois, il y avait une porte étroite dans une maison et une grande porte. Au fait, c'était la grande porte, mais dans la grande porte, il y avait une petite porte. Donc dans la vie normale, on n'utilisait que la petite porte. Lorsqu'il y avait une grande fête, on ouvrait toute la grande porte et les gens pouvaient passer avec les aliments, donc il y avait beaucoup plus de mouvement. Donc Jésus dit, ne cherchez pas que la porte soit ouverte en grand. Entrez dans la petite là. Et la petite là, effectivement, déjà c'était une porte comme une sorte de fenêtre. C'est-à-dire ton pied ne passe pas comme ça, ton pied va cogner, tu dois faire ça. Il y a un petit niveau quand même. Donc ça ne facilitait pas la tâche, mais tu entrais seul, tu ne pouvais pas entrer avec un gros plat d'aliments. Tu entres seul. Mais c'est quand il y avait les grandes fêtes, là, on ouvrait toute la grande porte, on pouvait passer avec tout ce qu'on veut. Donc tu entres seul, entrer par la porte étroite. Donc tout le reste ne compte plus, c'est d'abord ta vie qui compte. Quelqu'un a pris le micro? Oui.
Par rapport à ça, moi je voulais savoir, parce que là, la porte, là, la petite porte étroite, elle est où? Enfin, c'est-à-dire, elle est à quel moment de notre vie? Parce que quand on accepte le Seigneur, tu dis qu'on se dépouille, c'est-à-dire que si tu veux vraiment du Seigneur, tu dois te dépouiller. Donc on se dépouille déjà de certaines choses, mais après, dans notre parcours chrétien, on se rend compte que parfois tu nous dis, ah, toi t'es encore comme ça, toi t'as pas lâché ça, il y en a encore... et donc ces choses-là, ils passent pas dans la porte.
Ils ne doivent pas passer.
Donc ça passe pas. Donc ça veut dire qu'en vérité, la porte, c'est au bout du parcours, quoi.
Non, celui qui a déjà tout laissé, le jour où des événements lui réclament encore de laisser, il laisse. Parce qu'il a déjà tout laissé. Mais il y en a qui n'avaient pas vraiment laissé. Ces événements-là vont venir les amener à la vraie conversion. Voilà, un jour dans leur vie, ils vont être confrontés à un problème. Donc si leur conversion a été inachevée, ce jour-là, ça sera achevé, parce que c'est ce jour-là qu'ils vont laisser et entrer tout seul dans la porte, par la porte étroite. Voilà.
Je ne comprends pas bien, parce que du coup, quand si on a des restes de quelque chose qu'on pense avoir, on pense avoir tout laissé. Enfin, je pense avoir tout laissé. Mais si je découvre que finalement, je n'avais pas tout laissé, ça veut dire que je n'ai pas vraiment converti?
Non, mais qu'est-ce que... si tu avais laissé tout d'une manière profonde dans ton cœur, quand viendra la chose que tu n'as pas laissée par ignorance ou par distraction, tu laisseras encore. Parce que tu as déjà laissé ton identité. Tu es déjà morte. Tu es déjà mort. Et quand la chose vient, naturellement, ça fait mal, mais tu laisses quand même parce que déjà tu avais laissé ton identité. Mais maintenant, admettons que tu n'avais pas profondément tout laissé, alors la nouvelle chose, quand l'épreuve arrive, c'est pour te permettre justement de tout laisser ton identité, de mourir vraiment et d'entrer par la porte étroite. Donc Dieu peut permettre une conversion sur le tard. Donc après, alors qu'officiellement tu es converti il y a 20 ans, mais c'est après 20 ans que tu es vraiment converti, parce que c'est là que tu as tout lâché. Mais Dieu peut permettre aussi qu'après 20 ans, alors que tu étais vraiment converti, un événement qui t'amène à la perfection. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ça, c'est la sanctification. Tu vas de perfection en perfection. Mais ce que pour certains, on peut appeler sanctification, pour d'autres, c'est la vraie conversion qui s'installe en ce moment-là. Voilà. Donc là, seul Dieu peut savoir ça exactement. ou la personne aussi elle-même. Parce que la personne, quand elle vit ça, elle dira d'elle-même, là, je suis quelqu'un d'autre. Voilà, tu sentiras que là, je suis quelqu'un d'autre. Voilà. Ce n'est plus moi d'avant. Bon, je vous ai souvent cité l'exemple de Maurice Ray, qui était pasteur. Il était pasteur. Après avoir fait 3 à 5 ans de théologie, il était pasteur et il a dirigé l'église pendant 3 ans. Mais ça n'allait pas. Il a demandé conseil auprès d'un aîné. Dans la discussion, l'aîné lui dit, je comprends ton problème. C'est que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. Comment moi qui suis pasteur, et pas seulement pasteur comme ça, mais j'ai fait des études de théologie, comment je peux ne pas être chrétien? Il lui explique, un chrétien c'est quelqu'un qui entre par la porte étroite. Donc il a tout laissé, ses raisonnements, sa logique, sa façon de... il a tout laissé, il a pris maintenant l'identité de Jésus, parce que seul Jésus peut entrer par cette porte-là. Donc il faut prendre son identité et entrer là. Et ce jour-là, ce pasteur-là dit, bon, maintenant je veux devenir chrétien. Et quand il a fait la prière pour devenir un enfant de Dieu, ah ben il avait changé. Donc là, toi-même tu sens que tu n'es plus la même personne. Voilà, donc même si, voilà, nous les gens de l'extérieur, nous ne savons pas est-ce que c'est la sanctification ou c'est la conversion. Toi tu sais, parce que tu verras que beaucoup de choses que tu faisais avant, ben c'est... qui était difficile, c'est plus difficile à lâcher. Tu étais esclave de telles choses, mais ça n'a plus de goût dans ta bouche. Ça n'a plus de goût. Tu sais que tu es une nouvelle personne. Voilà. Oui.
Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'on n'est jamais converti totalement au début, alors.
Ah non, on peut être converti totalement au début.
On peut, mais oui, mais on peut ou ne pas être ton converti.
Ah, on peut ou ne pas, pas jamais. On peut ou ne pas être converti au début, et, à 100%.
Et dans ce cas, si par hasard, cette personne
meurt.
Voilà, non, mais
Dieu permettra qu'elle soit face au choix réel de tout lâcher. Il permettra toujours pour se convertir à 100%. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver tous les hommes.
D'accord. Je reviens un peu en arrière par rapport à la question de la sœur Nancy. Le Seigneur dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais quand on lit dans Matthieu, tout le monde ne sera pas sauvé. Mais nous, quand on évangélise, donc on n'est pas certain que ces gens-là vont être sauvés. Alors.
Oui, donc on annonce parce qu'on pense que tous ils vont être sauvés, mais on n'a pas la certitude. Mais on croit. On doit croire que tous ils vont être sauvés.
Ah ben d'accord. Donc, okay.
Voilà. Mais cette parole de Matthieu 7 est là pour nous calmer quand on prêche, on transpire, mais après il n'y a que 2 personnes sur 1000. Donc cette parole est là pour nous dire, mais peu de gens vont entrer par la porte étroite. C'est une réalité. Voilà.
Dans le livre de Jean, chapitre 6, pardon, verset 65, il est dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, je ne comprends pas ce verset. Parce que le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais là, on a l'impression que Dieu a déjà choisi ceux qui doivent être sauvés.
Ah non, on n'a pas dit que Dieu a déjà choisi. On dit que pour comprendre qui est Jésus, il faut que Dieu t'explique d'abord. Tu ne peux pas venir à Jésus si l'explication n'était pas donnée clairement par son Père. C'est ce qui est dit là. Je t'écoute.
Hein? J'ai pas compris.
Pardon?
J'ai pas compris.
Non.
Le sens.
Jésus dit, nul ne vient à moi. Qu'est-ce qui est écrit?
C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père.
Voilà. Donc, sans que Dieu t'éclaire, tu ne peux pas comprendre l'évangile. Tu ne peux pas comprendre. C'est Dieu qui éclaire. Maintenant, quand Dieu a éclairé, tu as un choix à faire. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui t'est donné, parce que sans Dieu, tu n'allais pas comprendre. Quand nous, on choisit Dieu, C'est parce que lui nous a fait comprendre. Mais on a eu un choix à faire quand même. Mais maintenant, même si on est de bon cœur, si lui ne nous avait pas éclairé, on n'aurait jamais su que c'est lui le sauveur. Donc d'abord, il nous éclaire et on fait le choix. Donc en totalité, c'est lui qui donne quand même le salut parce que sans son éclairage, on n'aurait pas compris.
En fait, je parlais des gens qu'on évangélise dehors.
Oui.
Donc, c'est par rapport à ce verset que je demandais par rapport aux personnes qu'on évangélise dehors. Si, par exemple, ils n'ont pas été appelés par le Père, c'est ça, en fait, que je ne comprends pas de ce sens-là, en fait.
Si ça n'a pas été donné par le Père, pas appelé, hein, donné. Donc, c'est-à-dire que si Dieu n'éclaire pas, ils ne vont pas comprendre.
Oui, mais on doit quand même aller dans les nations.
Ah ben oui! On y va, puisque Dieu nous envoie.
Oui.
Mais on doit être conscient que c'est Dieu qui éclaire les autres. Ce n'est pas nous. C'est lui qui éclaire.
D'accord.
Voilà. Que chacun reste dans son rôle. Nous, notre rôle à nous, c'est de parler, c'est de prêcher, c'est d'expliquer, et c'est de prier. Mais celui qui éclaire, celui qui donne le salut, c'est Dieu qui donne le salut. Puisque c'est lui qui éclaire et qui rend ça possible. Ok.
Moi, je reviens par rapport à la porte. Lorsqu'on est converti, enfin, qu'on a vraiment la conviction d'être vraiment converti, mais la vie, c'est un combat perpétuel par rapport à la chair, par rapport à l'ennemi et par rapport surtout à notre propre chair. C'est un combat permanent. Donc, il y a des gens qui, probablement, ne chutent jamais, mais il nous arrive à beaucoup, parfois, de chuter. Est-ce qu'on passe par la porte? Comment ça se passe par rapport à ça, par rapport à parce que on peut avoir choisi Jésus et vouloir Jésus vraiment à tout prix, mais ne pas être totalement par moment dans sa volonté totale, ne pas faire vraiment sa volonté,
oui, parce qu'on
n'a pas bien écouté.
Mais
parce
Jean 1:9 est là. Si nous avons péché, nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner.
Mais si par exemple on n'a pas été attentif. Je veux dire, par rapport à ce que Dieu avait prévu pour une personne, par rapport à ce qu'il voulait, et que le choix a été mauvais dans certains cas, etc. Je veux dire, si on n'a pas vraiment fait la volonté de Dieu à 100%.
Il va nous l'expliquer. Il va se révéler à nous. Mm-hmm. On comprendra cela. Il va nous montrer qu'on a fait le mauvais choix.
D'accord. Mais ce n'est pas une question de conversion quand même, si?
Ah non, on peut être converti et refuser de suivre Dieu
ou pas, enfin,
dans la mission qu'il nous confie. Hein. Ah oui, on peut être converti. La conversion, c'est devenir à Dieu. Mais ça ne fait pas de nous des gens parfaits. Ça nous qualifie pour le ciel en nous donnant l'esprit de Dieu. Maintenant, dans la conversion, après la conversion, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Le fait d'être consacré maintenant à Dieu, de vivre que pour Dieu, ça nécessite notre humilité, s'humilier devant Dieu, accepter chaque jour qu'il règne. C'est un choix à faire chaque jour. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'on a cru que lui doit nous sauver. Mm-hmm. Voilà. Puisqu'on est converti par la foi, donc on a cru que lui nous sauve. Maintenant, quand on se convertit, chaque jour de notre vie, nous avons à le laisser gérer notre vie. Maintenant, on peut négliger ça. Et là, c'est vrai que, et sortir de sa volonté, mais il fera en sorte de nous ramener, parce que lui, c'est une alliance qu'on a signée avec lui. Lui va rester fidèle dans son alliance pour nous ramener à chaque fois. Voilà. Mais il y en a qui peuvent jusqu'au bout. Là, nous ne parlons pas du péché, hein, clair, qui est de voler, mentir, faire ceci. On parle de jusqu'au bout. Il y en a qui ne vont pas faire, être dans. La mission que Dieu leur a confiée. Donc ça peut arriver. Et ils vont se repentir à leur mort. Et ils vont aller au ciel quand même. Mais au ciel, ils n'auront pas de récompense. C'est ce qu'on appelle le tribunal de Jésus, dans 2 Corinthiens 5. Le tribunal de Christ.
Je justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. Comment je peux dire le Seigneur, il dit que, on ne sera pas jugé, nous. Enfin, les gens qui sont sauvés.
Par rapport au salut, on ne sera pas jugé.
Mais on aura quand même des comptes à rendre de ce qu'on a fait.
Ça, c'est le tribunal de Christ.
C'est ça, le tribunal que tu viens de dire, c'est ça.
Oui, oui.
Donc, on sera jugé par rapport...
Par rapport aux œuvres. Pas pour aller au ciel ou pas, mais pour les récompenses, par rapport aux récompenses.
D'accord.
Voilà.
Et par rapport aussi au fait, comme elle posait la question tout à l'heure, Chantal, les gens qui... Il y a des personnes qui pêchent consciemment, puis qui se disent « Oh, je demanderai pardon au Seigneur après. » Et toi, tout à l'heure, tu disais que ce n'était pas bon. Mais on aura aussi des comptes à rendre par rapport à ça.
C'est sur terre que tu vas rendre compte. Donc c'est sur terre que tu dois demander pardon par rapport à cette manipulation que tu as voulu faire sur le Seigneur.
Et si la personne, elle ne demande pas pardon?
Il y a un problème par rapport à la conversion. On ne peut pas aller au ciel avec le péché. En tout cas, il faut que ça soit clair.
Et si elle demande pardon au moment de sa mort, comme tu disais tout à l'heure
Ah oui, donc si elle demande pardon pour toute cette manipulation, elle va au ciel.
Mais elle aura... quand même des comptes à rendre.
Ah non, au ciel, il est déjà au ciel. Il va être jugé pour les mauvaises œuvres, entre autres le fait de n'avoir pas servi Dieu comme il faut. Mais ça ne concerne pas le fait d'aller au ciel, ça concerne le fait d'avoir une récompense ou pas.
D'accord.
La personne, donc, quand on croit en Jésus, on n'est plus jugé. C'est fini. Donc on entre... Les feuilles qui retiennent les péchés sont blanches, puisque le sang de Jésus a nettoyé ça. Maintenant, concernant les récompenses, nos œuvres sont jugées. Ce qu'on a fait avec notre vie sur terre, ça sera jugé, non pas pour qu'on aille au ciel, mais par rapport à la récompense à nous donner.
Par rapport à la récompense. Et la récompense à nous donner, c'est quoi? C'est la couronne et c'est les demeures?
Il y a plusieurs choses qu'on saura là-bas. Entre autres, Paul et Pierre nous ont donné quelques exemples. Ils ont appelé ça la couronne de vie. Et l'autre a appelé ça la couronne de vérité, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais,
il y a des couronnes.
Et par rapport aux demeures, que Jésus dit « je vous prépare des demeures ».
Oui, bon, là c'est nous qui imaginons certainement qu'il y en a qui auront de plus grands châteaux que d'autres. Mais ça, c'est nous qui pensons. Puisque dans la parabole des mines, on dit qu'il y en aura à qui on confiera 10 villes et d'autres moins des villes. Donc l'autorité ne sera pas la même, comme l'autorité des anges n'est pas la même.
Ah, d'accord.
Mais on est quand même déjà au ciel.
D'accord.
Donc il ne faut pas oublier ça. On est déjà au ciel quand même. Si quelqu'un doit cirer les chaussures de l'autre, mais on est quand même tous au ciel. Voilà, c'est ça la différence. Oui. Oui.
Alors, quelles sont les missions qui nous attendent?
Les missions qui nous attendent, pour chacun de nous, le Saint-Esprit va nous conduire. Mais d'une manière générale, c'est servir Dieu dans la prière, dans l'évangélisation, dans... le travail au milieu des enfants de Dieu, comment ensemble nous travaillons. Par exemple, l'exemple simple, c'est dans les Actes des Apôtres. Il y en a qui s'occupaient de partager la nourriture, il y en a qui s'occupaient de prêcher, il y en a qui s'occupaient de prier, il y en a qui s'occupaient d'aider les veuves. Donc dans le service, dans la famille de Dieu, il y a du travail. Donc Dieu nous attend, chacun a un travail dans la famille de Dieu, voilà. Et il nous éclairera là-dessus, voilà, sur quel travail insister pour chacun d'entre nous. Voilà, bien-aimés, donc c'est clair, il ne faut pas qu'on néglige ce fait-là, oui.
Pour revenir sur la question de Saint-Marie-Paul, c'est-à-dire qu'un jugement, c'est quelque chose de négatif?
Pas toujours, hein, parce que, par exemple, pour changer de nom, on appelle ça aussi jugement. Mais ce n'est pas dans le... On ne te juge pas toi. Donc, quand... contrairement... Par exemple, quand quelqu'un veut changer de nom, il faut qu'on fasse un jugement. Donc, il faut qu'on proclame une sentence pour lui. Mais ce n'est pas un procès. C'est un procès où tu es attaqué. Dans un procès, tu es attaqué. Mais un jugement, c'est une décision. Une sentence. Donc, c'est une décision. Donc, quand... Le tribunal de Christ, c'est Dieu qui décide de te donner une couronne par rapport à tes œuvres. Donc, il n'y a pas de négativité. Voilà. Contrairement à un procès où il y a un avocat qui t'accuse. L'avocat du ministère public qui te dit, lui, il a fait ceci, il a fait cela. Là, nous, on n'aura pas ce problème-là. Nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, c'est parce qu'on ne peut pas lire, puisque ce n'est pas le sujet, il y a certains passages qui en parlent. C'est-à-dire, quand on va au ciel, quand tu entres, tu viens avec tes œuvres. Et les œuvres, les mauvaises, les négligences, tout ça, ce sont des œuvres en paille. Ça va brûler tout de suite en entrant au ciel. Ça brûle. Alors que les œuvres faites par le Saint-Esprit au travers de toi, c'est des œuvres en or, en diamant, en pierre précieuse. Ces œuvres-là vont tenir l'épreuve du feu. Donc l'apôtre Paul explique ça dans l'Épître aux Corinthiens. Donc ce sont des œuvres qui vont résister à l'épreuve du feu. Et c'est ça qui te qualifie, c'est ça le jugement de Christ. Ce n'est pas un truc où on t'accuse encore, non. C'est-à-dire c'est tes œuvres qui ne passent pas, c'est tout. C'est tes œuvres qui ne passent pas.
Et c'est par rapport à ces œuvres-là qu'on va... Enfin,
les couronnes, oui. Ouais, d'accord. C'est par rapport à ça.
Et la dernière question, c'est-à-dire le brillant qui est mort avec Jésus, là.
Oui.
Il a eu la couronne ou pas?
Ah, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Mais on sait que Pierre et Paul, eux, ils l'ont dit, il y a une couronne qui les attend. C'est clairement dit. Eux, ils étaient conscients. Certainement, Dieu leur a montré ça dans la vision. Que voilà, tel endroit, tel poste vous attend au ciel. Donc, n'oublions pas, bien-aimés, large est le chemin qui mène à la perdition. C'est une réalité. Je sais que souvent, moi le premier, on est déstabilisé par le grand nombre de perdus. Mais les gens, il y a peu de gens qui vont accepter d'entrer par la porte étroite. Voilà. D'où l'importance, donc on revient, hein, encore à ce qu'on a dit en premier lieu, d'où l'importance de dire la vérité. Il faut que quand quelqu'un, on l'appelle chrétien, il faut qu'on soit sûr qu'il a bien entendu la vérité clairement. Il ne faut pas qu'on appelle quelqu'un chrétien comme ça par amusement. Non, il faut que si on a fait un travail sur quelqu'un, pour qu'on considère vraiment qu'il est chrétien, il faut qu'on soit conscient qu'il a bien entendu la vérité et qu'il a dit oui à cette vérité parce qu'il a compris. Pas parce que nous, on a parlé. C'est très important. On ne va pas tout maîtriser, mais faisons notre part comme il faut et faisons notre part aussi dans la prière. Nous continuons sur les principes à ne pas négliger. Un autre principe, c'est le fait que le salut demeure, c'est à peu près ce qu'on vient déjà de dire, un mystère pour nous. Le salut, c'est quand même un mystère. La façon dont quelqu'un est sauvé, ça va rester un mystère pour nous. On ne peut pas nous maîtriser la chose. Donc, c'est ce que le Seigneur explique dans Jean chapitre 3. Il dit, nous allons lire ça dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset, on peut lire tout, hein, le verset premier. « Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Voilà. Donc le Seigneur nous montre par là que l'origine exacte de la nouvelle naissance va demeurer comme un mystère pour nous.
quand est-ce que le travail de Dieu a commencé dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas le savoir d'une manière scientifique précise. On peut savoir à peu près quand est-ce que j'ai été vraiment touché, mais quand est-ce que le travail a commencé, tu ne sais pas. Le travail peut-être a commencé bien avant. Voilà. Et un jour, il y a eu comme une sorte de coup de marteau, mais on ne peut pas maîtriser le salut. Nous voyons certaines choses extérieures, mais nous ne maîtrisons pas tout. Voilà, donc c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier dans notre travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous pouvons être découragés, parce que nous n'avons pas vu ce qu'on attendait, et nous arrêter en chemin, alors que Dieu était en train de travailler. Donc je donne ce principe pour nous encourager, et non pas pour nous freiner, pour nous encourager à comprendre que Dieu s'occupe de tout, puisque, il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité, il travaille, mais nous ne maîtrisons pas tout. Alors comme nous ne maîtrisons pas, au lieu de marcher selon la vue, selon nos yeux, marchons par la foi, en esprit, et faisons notre part, et comptons sur le fait que Dieu fera sa part. Parce que le salut, d'ailleurs Apocalypse 7 le dit, hein, on chante même un chant qui le dit, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Donc ça, c'est traduit d'un chant en anglais qui... qui vient de ce passage d'Apocalypse, chapitre 7, je crois, verset 9. Apocalypse 7. Verset 10. Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le salut est à notre Dieu. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc on ne maîtrise pas 100%. On a des notions qu'on peut saisir, mais on ne maîtrise pas à 100%. D'où l'importance d'avoir foi en Dieu et de se reposer en lui. Et non pas en nos méthodes, en nos façons, en notre façon de faire. Nous devons chercher Dieu toujours dans tout ce que nous faisons. En matière d'évangélisation, Dieu doit être prioritaire dans nos prières, dans nos motivations, il doit être en avant. Sinon, nous allons faire face à des difficultés qui vont nous décourager. Alors que si nous sommes en fusion avec Dieu, nous sommes en phase avec lui, nous serons beaucoup plus tranquillisés. Dans les actes des apôtres, au début, nous voyons les disciples, à peine ils prêchaient, beaucoup d'âmes se convertissaient. Il y avait des changements dans des villes entières. Mais quand vous lisez maintenant dans les actes des apôtres, à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin, le langage des apôtres change. Ils arrivent, ils disent, on est arrivé dans cet endroit-là, nous avons prêché, et ceux qui devaient se convertir, se convertirent. Donc avec le temps, ils ont compris que ça ne sera pas toujours ce qu'ils ont vécu au chapitre 2 et 3, 4, 5 et 8 qui va s'accomplir comme ça. Mais c'est Dieu qui fait son travail. Le salut appartient à Dieu. Il sait à qui il le donne. Il sait comment il le donne. Nous, on est des ouvriers. Faisons notre part d'ouvriers. Donc la maturité a fait qu'ils disent, ceux qui devaient se convertir, se convertirent. Donc c'est-à-dire que pendant que nous nous prêchons, Dieu sait qui va se convertir. Et donc le résultat de notre prédication, c'est déjà un travail que Dieu a préparé. De sorte que notre part est vraiment faible, mais elle est nécessaire quand même. Voilà, donc on doit faire notre part, mais le grand travail vient de Dieu lui-même. Et ça doit nous encourager à continuer parce que on ne voit pas, mais Dieu travaille. Parce que le salut appartient à notre Dieu. C'est lui qui suscite le salut. Avant-dernier principe que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est que, d'ailleurs, on peut lier ça à un peu ce qu'on a dit déjà. L'évangélisation, c'est ce qu'on devient. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est une extériorisation de notre compréhension de Dieu, de notre foi en Dieu, de notre plaisir et joie que l'on trouve en Dieu, de notre évidence de sa gloire que nous exprimons. Ce n'est pas une invention littéraire. Donc on n'est pas là pour dire des choses que nous ne connaissons pas. Nous devons parler. L'évangélisation, c'est un témoignage de ce que toi, tu sais de Dieu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les milieux chrétiens? Beaucoup de gens se sentent obligés d'évangéliser alors qu'eux-mêmes, ils sont malheureux avec Dieu. Ah non! Si tu es malheureux avec Dieu, tu qu'est-ce que tu vas raconter aux autres? L'évangélisation, c'est ce que toi-même tu es, que tu exprimes, ce que tu deviens, comment tu es avec Dieu, comment tu as vu qu'il est grand, comment tu as vu qu'il est tout-puissant, comment tu as vu qu'il est merveilleux. Tu exprimes ça. C'est ça l'évangélisation. Mais si tu n'es pas en accord avec lui, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Donc c'est pourquoi nous disons l'évangélisation, c'est ce que tu deviens. Et ce n'est pas ce que tu fais. Donc plus tu deviens proche de Dieu, plus tu vois clairement la grandeur de Dieu, plus tu vois clairement qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est amour, plus pour toi ça devient clair, plus tu vas en parler. C'est ça, l'évangélisation. Conséquence, c'est que tu vas t'intéresser, toi, à contempler Dieu dans sa grandeur. Quand David se met face à Goliath, le courage que David a, c'est le courage qui vient de ce que lui, il sait de Dieu. C'est à partir de là qu'il affronte Goliath. Il n'est pas venu théoriquement juste parce que c'est le Dieu d'Israël. Non! Il savait que Dieu était tout puissant parce que Dieu lui avait donné la victoire sur le lion, sur l'ours. Donc il savait que face à Goliath, Dieu pouvait encore lui donner la victoire. Il était dans une relation avec Dieu, dans une expérimentation de sa gloire qui le poussait à parler. Et je ne dis pas que forcément il faille que nous tous nous tuions un lion ou bien un ours pour évangéliser, mais que les réalités que nous exposons aux autres, ce soit du vécu pour nous, quelque chose de réel pour nous-mêmes. C'est ça l'évangélisation. Et quand on est comme ça, bien-aimé, les gens sont touchés parce qu'ils voient. Parce qu'il faut savoir que Dieu est venu quand même physiquement en homme. Parce que si Dieu a cédé au fait que l'homme voie quand même, c'est que l'homme voie, c'est important. Donc il a fallu qu'il vienne en homme, l'homme l'a vu physiquement, mais c'est la même chose pour nous. Si nous voulons exprimer, parler de Dieu, c'est comme s'il venait en homme en nous. Il faut que ça soit notre vie, notre compréhension que nous exposons clairement. Parce que certains vont dire, ah bon, comme moi je n'ai pas vécu telle chose, je ne veux pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Est-ce que tu as cru que c'est vrai ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu crois? Est-ce que pour toi c'est évident? Est-ce que pour toi c'est sérieux? Voilà, là tu peux en parler. Tu peux en parler. Mais si toi-même tu es hésitant, toi-même tu dans ta vie, les orientations que tu prends démontrent clairement que tu n'as pas vraiment foi en Dieu. Pourquoi tu veux parler de Dieu aux autres? Alors que toi-même, tu prends des orientations qui manquent de foi, qui manquent de puissance. Parce que le Dieu que tu exposes, c'est le Dieu tout-puissant qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu que tu prêches, c'est le Dieu qui guérit les malades, qui est tout-puissant. Le Dieu de vérité. Alors, mais si toi-même, tu as du mal à l'accepter comme tel, à le voir comme cela, pourquoi tu veux parler de lui? Tu n'es pas obligé. Occupe-toi de toi d'abord. Avant de sauver les autres, vous savez, qu'est-ce qu'on nous dit dans les mesures d'évacuation dans l'avion quand l'hôtesse présente les consignes? Il dit, quand les masques à oxygène tombent, tu mets d'abord ton masque et puis tu commences à penser à aider les autres à mettre leur masque. Donc tu ne peux pas, toi, sauver les autres alors que toi-même, tu n'es pas sauvé. Donc l'évangélisation doit être faite dans cet état-là où tu es toi-même heureux d'appartenir à Dieu. Tu es heureux de vivre avec lui. Tu es confiant en lui. Et ça se montre dans tes orientations. Ça se montre dans tes choix. Et là, tu en parles maintenant. C'est clair, bien-aimé. Tu es quelque part. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Tu témoignes de ce que Dieu est. Tu es quelque part où les gens, pour tout et pour rien, ils se disputent 1 euro, ils se disputent 2 euros. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas adopter la même attitude. Ah, mais vous ne m'avez pas rendu 50 centimes. Ah, mais vous ne m'avez pas rendu 3 euros. Ah oui, mais il n'y avait que 3 morceaux. Ah, il n'y avait que 5. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu veux encore dire sur Dieu? Qu'il est tout puissant? Qu'il pourvoit, qu'il est notre berger, on ne manquera de rien. Qu'est-ce que tu vas dire de lui, celui qui a dit qu'on vient te prendre un manteau, donne l'autre. Maintenant, toi, on apprend que tu as un procès contre un membre de la famille parce qu'il a à cause d'un héritage. Mais de quel Dieu, maintenant, toi, tu vas parler? Quand on est venu parler des héritages à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais non, moi, je ne suis pas là pour partager les héritages. Ne soyez pas cupide. Ne soyez pas cupide. Vous occupez-vous de Dieu. Dieu s'occupera de vous dans le reste. C'est tout. Quel Dieu tu vas prêcher? C'est ça, bien-aimé. On se plaint qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat, mais comment nous évangélisons? Donc il faut que ça soit notre vie qui évangélise, totalement en nous, nous manifestions l'amour que nous prêchons. Nous manifestions la foi, la confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Il faut que ça se voie. Que nous n'avons pas peur du lendemain. Il faut que ça se voie. Que nous n'avons pas peur d'être licenciés. Nous n'avons pas peur que quelqu'un prenne notre place. Puisque Dieu s'occupera de nous. Voilà, il faut que ça aille ensemble. Et souvent, c'est parce que ça ne va pas ensemble qu'il n'y a pas de résultat. C'est très important, bien-aimé, l'évangélisation, dans cet esprit-là, de manifester ce que nous-mêmes nous considérons comme évident, comme vrai. Mais ne pas faire parce qu'on est des chrétiens, on doit évangéliser. Non, il faut que ça vienne de nous. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, un témoin, c'est celui qui a vu, qui a expérimenté. Tu réalises que Dieu est grand, tu en parles. Voilà, tu en parles. Maintenant, si toi-même, tu as du mal à réaliser que Dieu est grand, à le vivre, de quoi tu vas parler? Et nous clôturons pour donner un autre principe, peut-être le plus important. C'est dans Marc 14, de 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voilà. Cette femme n'a pas fait de grands discours, de grands poèmes, de grandes démonstrations du fait que Jésus était le Messie. Il a juste honoré Jésus. Elle a élevé Jésus. Elle a mis Jésus à un niveau très, très élevé en versant tout le parfum sur lui. Parce que ce parfum pouvait servir pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de temps. Mais d'un seul trait, elle a renversé ça sur Jésus, montrant par là que Jésus était grand, 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 grand. L'évangélisation va avec l'élévation du Seigneur dans nos vies. C'est ça. Nous devons évangéliser pour le salut des âmes, mais c'est la deuxième raison. La première raison, c'est que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix est si belle et si merveilleuse qu'elle doit être racontée, elle doit être dite, elle doit être élevée. Jésus doit être glorifié. Ça doit être la première raison. Jésus doit être glorifié. C'est pourquoi nous évangélisons. Cette femme a glorifié le Seigneur. Et en glorifiant Jésus, les gens ont pu saisir combien Jésus était grand. C'est pourquoi Jésus dit, partout où on parlera de moi, on doit parler de cette femme aussi en même temps. Elle a manifesté combien j'étais grand en versant tout ça sur moi. Beaucoup accompagnaient Jésus. Certains savaient plus ou moins qu'il était Messie, le Messie. Mais est-ce qu'il y avait la considération de qui il était vraiment? Est-ce qu'ils avaient bien compris ça? Cette femme a compris. Donc celui qui évangélise doit avoir compris comme cette femme la grandeur du Seigneur. Et quand tu comprends comme ça, eh bien, tu répands le parfum à ce niveau-là et la puissance de Dieu se manifeste. Les gens ont crié, ils ont dit, mais comment elle peut renverser une si grande quantité de parfum? Et les gens sont très étonnés de voir l'importance de Jésus dans ta vie. Ils seront tellement étonnés que ça va commencer à faire réfléchir et amener à la conversion. Donc, évangélisation va avec l'élévation de Jésus. Imitons cette femme et le Seigneur sera glorifié. Beaucoup d'âmes seront sauvées. Voilà les quelques principes qu'on avait prévu de donner concernant l'évangélisation qu'on doit retenir. Et que le Seigneur nous aide à faire ce travail-là dans l'esprit de sa parole entièrement au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous apprend, qui nous réapprend à faire les choses de la manière juste, de la manière puissante, de la manière glorieuse. Parce qu'il est écrit, dans ton palais, tout s'écrit gloire. Chez toi, il n'y a pas, Seigneur, la médiocrité, la bassesse, la mesquinerie. Avec toi, c'est la gloire, Seigneur. Nous voulons faire les choses dans la gloire, pleinement, pleinement. Et exprimer ce qu'il y a au fond de nos cœurs, Seigneur. Fais en sorte que nous te connaissions tel que tu es vraiment, Seigneur. Nous voulons appliquer ce principe qui nous demande de chercher à te connaître. L'évangélisation, c'est ce que nous devenons, que nous puissions te connaître, expérimenter qui tu es, afin que nous exprimions ça naturellement, au lieu de faire des calculs humains, Seigneur. Au nom de Jésus, rapproche-nous de toi, Seigneur. Rapproche-nous de toi. Nous croyons que si nous sommes proches de toi, cela éclatera comme ça a éclaté pour cette femme. Elle a su qui tu étais à cause de ton pardon dans sa vie, Seigneur. Elle a exprimé ça grandement. Nous nous souvenons du brigand à la croix qui a exprimé, alors que tu étais crucifié, il a exprimé que tu étais le roi, Seigneur. Nous voulons te connaître et exprimer clairement qui tu es, Seigneur. Prendre des orientations qui montrent combien tu es grand pour nous, Seigneur, et combien tu es grand par toi-même, Seigneur, aussi. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, oh divin, oh prends mon âme, oh prends mon âme, prends-la Seigneur, oh et que ta flamme brûle à mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de un paix d'amour. Oh, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte. Toi, mon seul bien. Merci, Seigneur, de nous remplir de toi, Seigneur. Que nous réalisions combien tu es grand, Seigneur. Et que sans forcer, et comme cette femme, remplie de ta connaissance de ta grandeur, nous puissions élever ton nom autour de nous par nos décisions, par les orientations de nos vies, par notre parole, par nos chants, Seigneur. Par les sacrifices faits en ton nom, et les gens sauront vraiment qui tu es, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'atteindre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.